On avait l'habitude du blé sur les Champs-Élysées, mais il en pousse une insoupçonnée richesse de variétés au Jardin des Plantes, jusqu'au 15 août. C'est facile à trouver, d'ailleurs Radio-Éthique a trouvé, pas si loin des dinosaures, de ces sortes de blé qu'on voudrait voir réapparaître, des plantations positivement subversives.
Ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ont été abandonnés, il faut quand même le dire. Hein. C'est que quand l'agriculture industrielle est arrivée, qu'on a mis des grosses quantités d'engrais et qu'ils ont monté encore plus comme des fous, alors là, ils ont versé à tous les coups. Donc là, ces blés-là n'étaient absolument pas adaptés à l'agriculture moderne. La plante, elle tombe par terre, elle verse. La machine, si, la machine, elle ramasse quasiment tous les machines. C'est vraiment incroyable, quoi. Mais les paysans, ils veulent pas voir des champs de blé par terre, quoi. Et ça, c'est un truc...
Non, mais la machine a quand même... Il y a productivité du travail. Ah,
voilà,
productivité. Alors là, c'est une catastrophe, parce que vous pouvez récolter, mais vous allez mettre un truc fou. Et avec des risques, en plus, de casse de matériel, parce que quand vous avez un bateau qui rentre dans le batteur, là, c'est...
Vous êtes comme ça au Jardin des Plantes en plein Paris alors que c'est pas votre endroit en fait.
Oui, en fait je suis agriculteur en Ardèche et je fais partie du groupe blé du réseau Semences Paysannes qui travaille à la culture des blés pré-industriels.
Au Jardin des Plantes, ce sont vos blés qui sont là.
Oui, ce sont nos blés. C'est une histoire qui est née il y a 2 ou 3 ans. Nous avons eu une réunion des différents groupes qui s'occupent de la préservation des blés anciens dans un bâtiment du Muséum d'Histoire Naturelle, puisque nous travaillons avec des amis qui sont chercheurs soit à l'INRA, soit au muséum. Dans cette réunion d'organisation, on est sorti pique-niquer, et puis avec un ami, Jean-François Berthelot, on a dit « mais c'est incroyable quand même, ce serait formidable qu'ici on présente l'histoire de la domestication des blés, mais vivante, avec les plantes dans le jardin ».
Vous allez faire un petit tour de France, vous allez trouver différents pays, blé des Hautes-Pyrénées, donc un Hautes-Pyrénées, blé du rouge de mille vaches.
Le blé et l'histoire de Paris, la Révolution française, c'est quelque chose quand même qui a compté, donc le blé c'est important.
Ah oui, oui, oui. Et ce qui est très, très important pour nous, c'était de montrer aux gens en fait qu'aujourd'hui quand on parle de blé, ça se restreint au blé tendre qu'on utilise pour le pain, pour la farine, tout un tas de choses, et à la limite au blé dur, parce qu'on connaît encore le blé dur, mais en fait les blés sont un nombre d'espèces vraiment important, une vingtaine d'espèces très différentes qui étaient cultivées par le monde traditionnellement et qui ont disparu pour la plupart de la culture.
Qu'est-ce que c'est qu'une graine ancienne?
Le mot graine ancienne, c'est un mot qui ne me convient pas tout à fait, parce qu'elles sont anciennes, d'accord, historiquement. C'est pas très précis. Moi, je préfère parler de graines pré-industrielles, parce que le moment clé de la perte de diversité des blés, ça a été le début de l'industrialisation, donc moitié du 19e siècle, où on a cherché à faire des blés hyper productifs qui étaient adaptés à des modes de production mécanisés, et puis à l'invention des engrais de synthèse.
Qu'est-ce qu'on a reproché au blé? Le fait que les oiseaux se posent dessus et que les machines ne pouvaient pas rouler dessus, en gros, c'est ça?
Non. Ce qu'on a reproché au blé ancien, c'était des plantes qui étaient capables de vivre par elles-mêmes dans différents terroirs, différentes implantations, différentes conditions climatiques, mais que ces blés avaient une végétation tellement développée qu'elles ne s'adaptaient pas aux conditions de récolte mécanique, et puis surtout qu'elles n'étaient absolument pas adaptées à une production sous artifice, donc d'engrais chimiques.
Parmi les blés les plus emblématiques que vous présentez au Jardin des Plantes, qu'est-ce qu'il y a?
Oh là là, c'est une vaste question, puisqu'on a là on a à peu près toutes les espèces de blé, depuis les blés sauvages et toutes les espèces cultivées dans le monde. Alors, si vous voulez un exemple, moi j'en prendrai un parce qu'il est quand même lié à ma région. C'est une espèce qui s'appelle les blés poulards. Dans la paysannerie, on appelait les gros blés. C'est des blés qui ont une très très grande vigueur végétative, qui sont peu sensibles aux maladies et une très belle production.
Et vous n'avez aucune variété moderne qui, pour la maturité, va être enflammée comme ça jusqu'à faire apparaître du mauve, du rouge?
Les derniers qui ont été cultivés, c'était jusqu'aux années 1950 en Auvergne, parce que dans le contexte de la région, c'est des blés qui permettaient et qui ont permis le développement d'un artisanat, puis d'une petite industrie de fabrication de pâte italienne qui est très très, très réputée. Et ces blés magnifiques ont disparu de la culture.
Les variétés modernes sont très productives dans un contexte
très productif. C'est le contexte qui fait la production.
Si elles ont beaucoup d'engrais, elles répondent. Mais si elles ont beaucoup d'engrais, elles ne sont pas capables de faire. Au contraire, elles se débrouillent moins bien que ces variétés-là.
Ce qui était très important pour nous, c'est que dans l'esprit des gens, quand on parle de biodiversité, c'est assimilé à la biodiversité sauvage. Des plantes sauvages, des animaux et tout ça, et qui a une conscience bien moindre du fait qu'il y a une formidable érosion de la biodiversité cultivée. Donc pour nous, c'était très très important de montrer cet aspect-là et que ce soit montré, pas par un discours, mais que ce soit sensible en voyant les plantes, parce que je pense que le fait de les voir, de les côtoyer, est beaucoup plus révélateur que d'en parler hors sol.
J'ai travaillé avec des variétés qu'on trouve classiquement partout, que la plupart des agriculteurs biologiques travaillent.
Les plantes pré-industrielles, en fait, étaient adaptées à leur terroir, à leur localité, aux natures du sol, au climat et tout. Et vous avez des blés qui pouvaient pousser dans quasiment toutes les conditions. Aujourd'hui, on reconnaît un peu le petit épeautre, hein, qui est cultivé en Haute-Provence. Il est cultivé sur des terres où il est impossible de cultiver du blé tendre, du froment. Et là, il se développe d'une manière tout à fait satisfaisante en donnant de surcroît un grain de haute qualité nutritive.
Le camut, par exemple, qu'est-ce que c'est ?
Ah, le camut. Le camut, ça n'est pas un blé. C'est une marque. C'est une marque d'une firme américaine, mais au niveau botanique, c'est un blé du Khorassan. Seulement, bon, le marketing de la boîte a fait qu'on assimile le nom de la marque à la variété de blé. Mais bon, c'est les blés du Khorassan, il en pousse encore beaucoup en Orient, en Iran, en Irak. C'est une variété de blé du Khorassan, tout simplement, proche du blé dur, qui est un très bon blé, indépendamment de ça. Mais Camut, c'est pas un blé, c'est une marque.
Sur une des deux allées donc du Jardin des Plantes, il y a les blés de pays, de différents pays de France. En fait, à chaque pays pousse un blé différent.
Ah ben, il y avait une telle diversité de blés donc cultivés et adaptés aux différentes localités qu'on avait des centaines de milliers de variétés qui se sont perdues, qui ont disparu, sauf pour un certain nombre. Hein, il y en a à peu près 800 qui ont pu être conservés au conservatoire des céréales à paille de l'INRA à Clermont-Ferrand. Et pour donner un exemple, il y a un aspect exceptionnel, c'est qu'un chercheur de l'INRA, dans les années 60, s'est intéressé à une toute petite région en Bretagne, autour de Redon, des blés de Redon. Et là, à cette époque, il a collecté 400 variétés dans cette petite région, ce qui montre la diversité qu'il pouvait y avoir. Ça s'est fait pour cette région, mais malheureusement, ça s'est pas fait ailleurs. Et le groupe blé du réseau Semences Paysannes a pu réaccéder à ces graines qui étaient conservées donc au conservatoire de l'INRA et les remettre en culture.
Quelle est pour vous la meilleure façon de conserver ces graines, ces semences ?
La meilleure façon de les conserver, c'est de les cultiver. Parce que ça paraît une évidence, mais c'est d'autant plus important que nous n'avons pas un travail, un état d'esprit de conservation, de conservateur. Ce qu'on cherche, c'est donc en recultivant ces blés pré-industriels, de voir dans cette immense richesse de variétés et tout, celles qui sont le plus adaptées à nos fermes, à nos modes de culture et puis à nos goûts, avec lesquels on se sent en meilleure compagnie possible.
Vous ne cultivez pas du tout la nostalgie, c'est pas la question.
Non, on ne cultive pas du tout la nostalgie. Non, ces blés ont été mis dans des milieux artificiels de conservation pour pas perdre la ressource et tout, mais c'est des êtres vivants, c'est des plantes qui, pour évoluer, doivent être cultivées et qui s'adaptent continuellement aux conditions qui les environnent.
Qu'est-ce que vous aimeriez que le visiteur retienne, s'il devait retenir une chose de cette visite au Jardin des Plantes ?
L'important pour nous, c'est qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils avaient une vision complètement restrictive de ce que c'est que le blé. Et qu'en fait, c'est un monde beaucoup plus large, c'est une vingtaine d'espèces différentes, c'est des centaines de milliers de variétés qui existent et qu'on n'a aujourd'hui plus le droit d'échanger, plus le droit de commercialiser. On a le droit de les cultiver, mais dans des cadres très 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 restreints.
Si je sors du Jardin des Plantes et que je vais à la boulangerie, qu'est-ce que je demande à mon boulanger ?
Vous pouvez lui demander du pain fait à partir de farine de blé ancien et panifié au levain. Je pense qu'il vous posera beaucoup plus de questions, il vous apportera de réponses parce que ces variétés ne sont absolument pas disponibles. Sauf dans des conditions très spéciales où vous trouvez près de chez vous un farfelu comme nous qui a remis en culture ces variétés anciennes et qui les transforme, qui fait des pains et qui le vend localement.
J'ai quand même un petit souci, c'est que je trouve honnêtement que le prix du pain est trop cher.
Ah oui, oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, ce que je trouve totalement scandaleux, c'est le prix de vente du grain par l'agriculteur. Aujourd'hui, le prix du kilo de blé tendre est aux alentours de 35-37 centimes d'euros vendu. Alors qu'on sait qu'il faut un kilo de grain pour faire un kilo de pain.
On achète 35 centimes le kilo ?
Oui, c'est le prix de vente en général. Et pour le blé dur, c'est encore plus bas.
Et la baguette était à peu près 1 euro, ça allait passer de 1 franc à 1 euro.
Des semences qu'on construit en or ou je ne sais où, pour en cas où, pour préserver la diversité avant les fins des mondes ou une grande catastrophe. Mais justement, oui, non, mais qu'est-ce que. Bah, il n'y aura personne pour les faire sortir de la base.
Vous demandez une confirmation.
Oui, parce que bon.